We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Bienvenue sur cette nouvelle édition de Politique PME, cette émission dédiée, comme vous le savez maintenant, car vous avez pris l'habitude et le bonheur d'écouter cette émission, dédiée à ce que le monde politique en général pense, souhaite faire des PME. Et comme vous l'avez vu jusqu'ici, nous avons commencé à recevoir un certain nombre d'hommes et de femmes politiques, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent un tout petit peu plus dans l'ombre pour avoir l'oreille de ces politiques, et même plus que l'oreille parfois, obtenir un certain nombre de décisions, convaincre sur un certain nombre de thèmes. Et c'est le rôle en France, comme dans beaucoup de pays, des think tanks. Et nous avons en face de nous le président de l'un d'entre eux, qui s'appelle la Fondation Concorde. Bonjour Monsieur Rousseau.
Bonjour.
Alors, merci de nous recevoir d'abord dans vos locaux ce matin. Alors, ma première question, assez naturelle, c'est d'où vient la Fondation Concorde? Quand est-ce que s'est créée cette belle institution? Et surtout, pourquoi et par qui elle a été créée? Donc, ça fait quatre questions en une, en fait. Hein, c'est un package.
La Fondation Concorde a été créée à la fin des années 90, en réaction à des orientations prise par les pouvoirs publics qui privilégiaient, qui semblaient mettre au centre de la problématique de la prospérité la haute fonction publique et développer ainsi des services et la bureaucratie. Ça, nous étions, nous, un groupe d'universitaires, la plupart de Dauphine, et nous trouvions que c'était une très mauvaise voie. Par conséquent, nous avons essayé de nous réunir de façon à créer un mouvement qui pouvait aller à l'envers, c'est-à-dire en fait bloquer et donner des éléments pour que ces orientations ne soient pas excessives.
D'accord.
La haute fonction publique ne nous paraît pas être, l'essence d'une prospérité à venir.
C'est clair. Alors, au début, petit groupe finalement d'amis issus de Dauphine,
voilà,
que vous
alors,
connaissiez bien et vous
voilà,
partagez.
Alors j'avais déjà, j'étais déjà animateur de groupe d'entrepreneurs.
D'accord.
J'étais aussi par ailleurs le conseiller en stratégie d'un groupe parlementaire qui s'appelait Audace pour l'emploi. C'est-à-dire une quarantaine de parlementaires qui étaient des gens de l'entreprise, de la PME.
D'accord.
Justement, qui s'étaient organisés pour, comme nous, résister, disons, à ce mouvement bureaucratique.
D'accord.
Et donc, on s'est retrouvés plusieurs fois, quelques dizaines. Les événements politiques ont fait que nous avons pris une importance. On s'est retrouvés au centre, disons, d'un pôle d'intérêt et que progressivement, des hommes politiques de plus en plus importants sont venus nous rejoindre. Toujours ce besoin de s'appuyer sur des mouvements qui bougent et puis de gagner de nouvelles influences.
Ouais.
Donc on a constitué d'abord une association qui s'appelait Charte 98 qui voulait tout simplement supprimer l'ENA.
D'accord.
C'était notre première, personne ne s'en rappelle de ça,
mais
c'était notre première initiative.
Ouais, vous étiez dans l'air pendant un moment,
comment,
même sous Chirac, on avait parlé de la suppression de l'ENA.
Bien sûr, et nous étions derrière et... D'ailleurs, je pense qu'il faudra y arriver un jour et le plus vite possible sera le mieux. Et donc, on a pris de l'importance et les gens ont pris l'habitude de nous écouter.
Petite question juste pratique, Concorde, pourquoi?
Eh bien, tout simplement parce que nous avions des bureaux installés à Place du Trocadéro et qu'on a trouvé que la Fondation Trocadéro, ça sonnait pas bien. Et on a trouvé que Concorde, c'était une place qui réunissait tous les atouts, c'est-à-dire à la fois, de l'humanisme, c'est-à-dire qu'en fait, du rapprochement, de l'entente, et puis du rassemblement pour agir.
Oui. Alors, autre petite question, finalement, un think tank aujourd'hui, ça sert à quoi? Il y en a combien? Qui sont ceux qui sont vraiment influents? Enfin, voilà. Aujourd'hui, un think tank, beaucoup parlent de do tank maintenant. C'est-à-dire, il faut penser et ensuite faire. Enfin, quelle est votre position là-dessus?
Alors, écoutez, un think tank, c'est pour nous un cercle de réflexion.
Oui.
C'est-à-dire qu'on réunit des gens qui veulent participer au débat public, des experts, des universitaires, des hommes et des femmes d'entreprise, des élus. Ça, c'est au moins la recette de la Fondation Concorde. Et puis, ils proposent, ils réfléchissent, ils proposent, et nous publions et nous faisons en sorte de valider les propositions et de les faire passer dans l'espace public.
D'accord. Alors, qui compose classiquement aujourd'hui, sans indiscrétion, mais la Fondation Concorde, qui sont ses membres les plus actifs, ses sponsors les plus forts?
Alors, nous sommes organisés comme toute institution. Nous avons un bureau, un conseil d'administration, doublé d'un comité scientifique et doublé aussi d'un comité d'experts. Et nous avons une centaine d'experts qui travaillent en permanence sur une douzaine de thèmes. Donc, ça fait de 10 à 20 personnes qui travaillent par thème.
D'accord.
Voilà le vrai contenu de l'activité, comment ça se développe. On a des salles de réunion ici, les gens viennent travailler généralement le soir. La particularité de Concorde, c'est d'être très populaire. C'est-à-dire, en fait, nous ne faisons pas seulement appel à des grandes, à des personnalités ou à des experts connus nationalement ou internationalement. Ça, on pense qu'il y a dans ce système nécessite d'abord beaucoup d'argent, puis ne conduit pas obligatoirement à des résultats formidables. Nous faisons appel à la population, en gros. Hein. Tout le monde peut être adhérent Concorde. On a 2500 à 3000 membres qui suivent nos activités. Il y en a une centaine, 100, 150, comme je vous le disais, qui travaillent en experts. Mais, par exemple, chaque année, pour toutes nos manifestations, donc petit déjeuner, débat, colloques, séminaires, nous réunissons environ, enfin il y a 2000 à 2500 personnes qui se déplacent
D'accord.
nos manifestations.
Et est-ce qu'on a une répartition entre les grands groupes et les PME? Parce que je sais que vous avez une sensibilité forte pour les PME.
Oui,
les PME.
On a beaucoup, je crois qu'il y a une dominante PME certaine, mais... Nous sommes aussi de vrais républicains dans le sens où nous ne demandons pas de carte de visite à nos adhérents et on sait qu'ils viennent de l'entreprise, beaucoup donc de la petite entreprise, mais nous n'excluons pas, bien entendu, nous n'opposons pas grande entreprise, petite entreprise, ou tout au moins nous savons que nous pensons... fortement que la prospérité est liée à l'initiative individuelle.
Oui.
Pour nous ici, il y a un élément majeur qui détermine notre philosophie d'ensemble, c'est la liberté.
Oui.
Liberté des individus, liberté d'entreprendre, et donc solidarité par ailleurs, parce qu'on ne peut pas agir seul.
Oui. Alors ça nous amène à la teinte de Fondation Concorde, qui est plutôt d'approche libérale du coup.
Alors écoutez, si vous appelez libéral le fait que... on doit autoriser les gens à prendre des initiatives, nous le sommes. Mais
d'accord.
Par contre, nous ne sommes pas des libéraux extrêmes, c'est-à-dire que nous pensons que chaque individu vit dans un milieu, dans une société, une région, une nation, et que toute initiative doit avoir des liens avec l'environnement.
Oui. Alors, comme la Fondation est née sur cette espèce de volonté d'opposition, d'ailleurs assez souhaitable pour nous aussi, entrepreneurs, de l'ingérence de l'État un peu dans tout le monde. Alors, on a vu l'État éventuellement devenir éventuellement plus raisonnable, mais la crise financière l'a plutôt ramené sur le devant de la scène. Mais les territoires surgonflés en effectifs et en... Qu'est-ce que ça donne de votre point de vue aujourd'hui? Est-ce que finalement ce gonflement du personnel, des moyens, des territoires, est-ce que ça a impacté positivement les entreprises de notre pays?
Écoutez, le diagnostic général de la Fondation Concorde, que je peux me permettre de traduire en quelques mots, c'est que la France est quand même toujours une société malade de sa bureaucratie. Et nous avons un héritage très fort du XXe siècle, de la puissance publique qui envahit tout. Il y a trop de monde.
Ouais.
Et puis, comme vous le savez, dès qu'il y a du monde dans une bureaucratie, elle invente toujours des tâches. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, si on a fait des progrès, le problème essentiel du pays est de cette charge de la dette, qui bien entendu est liée à toujours de la dépense publique. Moi je suis par ailleurs un maire d'une petite commune et donc je vois bien comment ça se passe. Les maires et les communautés de communes par exemple ou l'intercommunalité conduit aussi à des dépenses extravagantes. Il n'y a pas de lien en France de fait entre la dépense et la recette.
C'est clair.
C'est-à-dire qu'en fait, j'ai le sentiment de temps en temps que les pouvoirs publics et les décideurs politiques prennent les entrepreneurs pour des mercenaires. Ils les pressent, ils en sortent... tout ce qui est possible de sortir, et parfois au-delà du raisonnable, et puis de l'autre côté, il n'y a pas de frein.
Oui.
Donc, c'est une vraie maladie française et qu'il faut essayer de stopper. La France est bien développée, maintenant il faut faire la place à ceux qui entreprennent et les dégager de trop de poids.
Oui. Alors, ça va nous amener à des questions sur les PME, PMI, assez naturellement. Alors, je sais que la Fondation Concorde aujourd'hui et son président qui est en face de moi aujourd'hui a une vraie sensibilité pour les PME et les PMI. Est une fondation née à Paris, mais qui n'oublie pas que 75% de la richesse est créée en dehors de Paris, et qui n'oublie pas non plus, dans une discussion qu'on a eue récemment, qu'il n'y a pas qu'un monde d'Internet, il y a aussi un monde d'industrie à recréer. Donc aujourd'hui, vous avez la sensation que dans notre microcosme parisien, on parle que d'Internet et qu'on a oublié que Internet, c'est quand une grosse partie de croissance, mais une toute petite partie de richesse aujourd'hui.
Oui, moi, je pense qu'effectivement, la France, qui est très centralisée et qui a une formidable puissance dans la région parisienne en termes d'économie, puisque c'est la première région d'Europe, faut jamais l'oublier, a tendance à, disons, privilégier un certain nombre d'activités reposant sur les services, parce que le service, c'est propre à la ville. De tout temps, d'ailleurs, les géographes et les économistes définissent l'économie comme... disons, en deux parties. La partie avant, c'était la partie agricole, artisanale, etc., qui était en périphérie des villes, et puis ou l'élevage, et puis les échanges. Oui. Les échanges et les services se développaient dans la ville, oui. la rencontre.
C'est clair.
Donc, il y a une naturelle pente à parler toujours de ce qui se fait en ville, et surtout que là, il y a tous les médias.
Oui. Oui.
Et donc, vous pouvez pas empêcher ça. Mais je pense que c'est pas une peine rédhibitoire. Je crois qu'il faut savoir que tout s'enchaîne et qu'il n'y a aucune activité qui peut se développer sans que les autres activités soient prospères. Et nous avons le sentiment, et là je parle au nom de mes collègues économistes, nous avons le sentiment que la France doit s'attacher à développer ce qui est le plus difficile, à développer, c'est-à-dire l'industrie, la manufacture, le savoir-faire. Parce que là, ce sont des processus longs, ce sont des processus qui demandent de la capitalisation, qui demandent du savoir-faire, qui demandent beaucoup d'organisation et qui ne reposent pas seulement sur l'initiative d'un homme ou de quelques hommes très bien formés, très compétents, très entreprenants. Oui. Ça, la France regorge de talents dans ce domaine. Donc là, moi, j'ai aucun souci. Je pense que nous sommes très, très bons pour... tous les services, et en particulier tout ce qui est numérique. Mais donc, sachant que ça va tout seul,
oui.
Et ben, travaillons sur ce qui est le plus difficile de réaliser, c'est-à-dire en fait la petite industrie
oui.
qui doit devenir la moyenne industrie
oui.
Et qui est capable de rendre des services sociaux importants, par exemple la fixation des populations, la fécondation des autres activités,
oui.
et, l'exportation.
Bien sûr. Bien sûr. Alors, du coup, ça nous amène à comment fonctionne un think tank ou une fondation comme Concorde, c'est-à-dire quels sont ses moyens d'action. Alors, il y a des publications, des petits déjeuners, mais quels sont les différents moyens à votre disposition et puis ensuite, on passera à une question sur quel est le niveau d'écoute des interlocuteurs.
Alors, les moyens à notre disposition sont donc la publication.
Oui.
La publication est très importante dans la mesure où il faut inonder sans arrêt
oui.
les décideurs politiques. Il oui. faut créer un climat autour d'une idée qui sera reprise par d'autres et un think tank n'est jamais seul. Il ne faut pas croire que seul on peut changer, disons, le cours de l'histoire. C'est faux. Il faut être peut-être, disons, en pointe sur certaines idées, mais il faut savoir que seul on n'y arrivera pas. Il faut donc que les autres soient... faut créer de la stimulation.
C'est clair.
Dans le combat des idées. Il faut que les autres disent « Oh là là, ils ont sorti un document très bien là-dessus, il faut qu'on y soit aussi, etc. » Et ça marche bien, ça.
Ouais,
hein, surtout à Paris, il y a de la rivalité, c'est parfait. Et nous, on n'a aucun souci quant à l'originalité, donc on sait où on va, et donc on avance, on n'attend pas que les autres le fassent.
Ouais.
Alors, pour vous donner un exemple sur les moyens d'action et comment on peut faire passer ces idées, je vais vous parler de produire en France. Nous, on a là, justement, cette préoccupation majeure qui est l'industrie. Il ne faut pas oublier qu'on est passé de 24% en PIB en 1985 à 14% aujourd'hui. Donc, c'est une chute vertigineuse et qui porte, disons... des dangers considérables, parce qu'en fait, les services ne peuvent prospérer que s'il y a, disons, de la création de biens, et la France ne peut être indépendante que si elle crée suffisamment de biens par elle-même pour pouvoir échanger.
Oui.
Si on veut acheter des téléviseurs, si on veut acheter tout ce qui est produit à l'étranger, il faut bien que nous on vende de notre côté, sinon on va se retrouver un pays en voie de développement. Donc nous avons voulu attirer l'attention sur la nécessité de soutenir la PMI et de favoriser même la PMI, la petite industrie, de façon à ce qu'on reprenne des parts de marché à l'étranger.
Oui.
Ça, c'est fondamental, et qu'on redonne un peu d'air aux entrepreneurs qui sont étouffés par toutes les charges et qui vivent dans un climat social qui n'est pas des meilleurs.
Oui.
Donc ça, c'est fondamental pour nous. Alors on a réuni des experts et on a suffisamment de notoriété pour avoir réuni les meilleurs experts nationaux.
Oui.
Y compris des gens d'ailleurs qui sont pas nécessairement à l'origine des libéraux. Puisqu'il y avait plusieurs personnes qui sont proches de l'ancien président François Mitterrand, mais qui partagent notre sentiment. Donc on a réuni tous ces gens-là, et on a réuni aussi les grandes voix de l'industrie, et on a proposé de faire un programme spécial soutien à l'industrie.
Oui.
Voilà, alors ça a attiré la presse, ça a fait réagir les autres syndicats patronaux de l'industrie qui sont montés au créneau en disant c'est nous, c'est pas eux, etc. Formidable. Et donc on les revoit maintenant et on va essayer de faire un pacte pour l'industrie qu'on va pousser tous ensemble et qu'on va faire signer aux candidats à la présidentielle.
D'accord. Alors il y a quelques mesures clés. Alors je pensais à un entrepreneur d'un groupe avec lequel on travaille qui nous disait, écoutez, il y a déjà un problème simple, c'est que l'industrie, c'est des immobilisations corporelles, c'est du dur, c'est des bâtiments, c'est des usines, c'est de la production. Et grosso modo, aujourd'hui, tout le système, notamment des banques, nous pousse à des crédits court terme, alors qu'en fait, avant, on pouvait emprunter sur la durée d'amortissement, sur 15 ans, etc. Est-ce que ça fait partie des préoccupations que vous avez senties chez ces entrepreneurs? Déjà, on ne peut pas investir si le financement, dans son temps, n'est pas adapté au temps de notre création d'entreprise.
Oui, c'est sans doute un des volets, disons, d'une action générale. Il y en a bien d'autres.
Oui, j'imagine.
Il y en a bien d'autres qui sont très importants. Il y a bien entendu, on est dans un drôle de pays parce qu'en fait, voilà que nous sommes le cinquième puissance mondiale toujours, et donc nous avons une nécessité à être présents sur tous les marchés. Et pourtant, les industries qui sont notre présence à l'exportation, il y a 80% disons de ce qui est exporté qui vient des entreprises industrielles.
Oui.
Donc il y a pas photo, c'est bien là où il faut
oui.
Et on les a laissés se dégrader.
Oui.
Pire, pour les exonérations fiscales par exemple, on a systématiquement privilégié les entreprises des secteurs protégés. Y compris d'ailleurs les familles, la grande distribution, etc.
Ouais.
Je vise personne, mais en gros,
on voit
des gens hyper protégés qui bénéficient pour leurs salariés des. Alors, c'est parti d'un bon sentiment.
Ouais.
C'est-à-dire en fait favoriser l'emploi,
le
recrutement. Ouais. Mais on l'a pas fait pour l'industrie. On l'a pas fait pour l'industrie pour deux ou trois raisons. D'abord parce que la moyenne des salaires dans l'industrie est assez élevée, est un peu au-dessus de la moyenne de ce qui se fait dans certains services, certains secteurs protégés. Donc les mesures ne s'adaptaient pas. Et puis aussi parce que c'est plus compliqué. Alors ce que nous voulons faire en priorité, c'est de déplacer l'effort national en ce qui concerne ces exonérations du secteur protégé vers le secteur exposé.
Bien sûr.
Il faut diminuer les charges de ceux qui combattent sur les marchés et les marchés à l'exportation.
Oui.
Et rapidement, et le faire vite et énergiquement.
Oui.
On veut un déplacement de 30 à 40 milliards.
D'accord.
Ce qui est important, mais on est tous d'accord pour dire que c'est la condition du succès pour rétablir notre capacité d'exportation.
D'accord. Alors, est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui, quand on regarde le grand emprunt, que l'une de ces orientations, enfin les dépenses d'avenir, on dit maintenant, est favorable à l'industrie, justement ?
Quelques-unes de ces préconisations, oui, sont favorables à l'industrie. Oui. Mais
pas suffisamment.
C'est difficile à dire parce qu'en fait, est-ce que le grand emprunt doit servir à ça? Il y a d'autres mesures qui sont à prendre sur le plan fiscal en particulier, sur le plan social, qui sont majeures. C'est pas obligatoirement au grand emprunt de s'attaquer au problème de l'industrie.
Ouais.
Mais ça va pas contre.
Ouais. Quel est le lien aujourd'hui entre ce que font ou ne font pas les banques et le secteur industriel? Enfin, je veux dire, sans marquebouter sur la mesure financière, mais est-ce qu'aujourd'hui on a tous un petit peu l'impression, entrepreneurs, Alors, un, que souvent nos entrepreneurs demandent trop aux banques. C'est-à-dire que c'est pas à eux de faire nos capitaux propres. Il y a quand même quelque chose à rétablir. Mais qu'en même temps, la PME est quelque chose qu'ils ont définitivement laissé. Parce que c'est plus leur sujet. C'est plus leur sujet de rentabilité. Est-ce que, et particulièrement pour l'industrie. Donc, si on n'a pas les banques derrière, est-ce qu'on peut quand même réussir une politique industrielle, en fait?
Franchement, au plan général, nous sommes convaincus qu'il y a un problème bancaire en France.
Oui.
Les banques sont malades, de bureaucratie, de technocratie, sans doute parce que les plus hauts fonctionnaires de l'État passent de Bercy à la tête des banques. Donc ils ont essayé de faire transformer les banques en système automatisé, impersonnel. Vous connaissez ça mieux que moi, parce que les chefs d'entreprise ont des difficultés dans l'interface avec les banques, comme les particuliers d'ailleurs. Et tout ça est automatisé, on donne des pénalités, on traite les clients vraiment comme des sujets. C'est franchement une honte, et personne ne dit jamais rien. Parce que c'est sacré, parce que c'est de l'argent, parce que voilà. Il y a un vrai problème des banques. Alors nous avons ici à la Fondation Concorde un comité, d'ailleurs un groupe de travail sur des nouvelles procédures et entre le financeur et le demandeur. Nous, on veut renforcer dans les territoires, justement, pour les petites, pour les PME, les TPE, le rapport de force entre celui qui demande et celui qui donne. On voudrait maintenant que les représentants des organismes qui financent courent après le porteur de projet, qui est une concurrence. Et que ce soit pas le gars qui aille pleurer à la porte des banques ou des organismes financiers. Alors il y a tout un tas de mesures qui viennent qui rassurent les banques sur le Bâle 2, le Solvay, etc. Des trucs qui pour les petites entreprises et les petites sommes me paraissent complètement dérisoires. Parce que d'un côté vous avez le Crédit Agricole ou la Société Générale qui va perdre 2-3 milliards en Argentine ou en Grèce. Et puis d'un autre côté, vous avez à Loche ou à Priva, vous avez un gars qui veut acheter une machine pour embaucher et pour développer et qui va voir refuser un crédit de 15 000 euros. Ça n'a pas de sens.
C'est clair.
Donc il faut remettre un peu les banquiers dans le bon sens. Ce sont des gens très proches du politique. Difficilement touchables. Je dirais même qu'en France, il y a une catégorie, ce sont eux, les intouchables. Et là, franchement, il faut une vraie révolution. Il faut mettre la finance au service de l'entrepreneur et de la création de richesses. Et non pas la finance en soi créatrice de richesses, parce que là, on va nulle part.
Et puis on alimente une spéculation qui ne crée pas de richesses. Quelle oreille tendent les politiques? Parce qu'ils sont pressés, ils voient beaucoup de sujets, on leur demande beaucoup de choses sur beaucoup de thèmes, ils peuvent pas être bons partout. Donc comment est-ce qu'on arrive à les agripper sur une thématique? Comment est-ce que surtout, au-delà des signatures, des promesses, comment on les fait passer de la promesse à l'action? C'est-à-dire, vous aviez signé ce document, demain vous êtes élu, vous allez le faire. Comment est-ce qu'on arrive à mettre ça en œuvre ensuite?
Là, vous faites allusion en fait à la complexité de la gestion d'une société moderne. Et bien entendu, à la limite qu'ont les hommes eux-mêmes à être sur tous les fronts, quoi. Et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de tolérance et beaucoup de compréhension vis-à-vis des hommes politiques et des femmes politiques, parce que c'est un métier très difficile. Leur bonne volonté n'est pas souvent en cause, c'est leur dispersion qui nous tue, leur dispersion. Alors il faut trouver les gens passionnés qui vont porter un projet et qui vont vous aider. Et puis il faut porter l'idée à différents niveaux, alors dans les cabinets, à la présidence, à Matignon, au Parlement. Et nous avons une action particulière d'information vers les parlementaires.
Et vous avez la sensation, comme nous, depuis quelques semaines, qu'on parle beaucoup de PME dans différents discours. Mais au-delà du fait d'en parler, ils parlent beaucoup, les PME, il faut les aider pour créer de l'emploi, puis on reparle d'OSEO, etc. Mais au bout d'un moment, on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment des vraies mesures aujourd'hui pour les PME, PMI. C'est un sujet qui les intéresse, mais ils ne voient pas par quel bout le prendre.
Il y a des progrès. On était il y a 2 jours avec Frédéric Lefebvre et Ils cherchent à simplifier, à faire de l'application. Ouais. Et ils sont en train de résoudre le problème
de la simplification récemment.
Ils essaient quand même de favoriser aussi le financement des petites entreprises. Je crois qu'on va faire des progrès. Ouais. Ça y est, maintenant, on est dedans.
Ouais. Ouais.
Les initiatives viennent de loin. Même Oseo s'occupe des petites entreprises. Ouais. Hier, ici, on avait le numéro 2 d'Oseo qui est venu nous dire combien ils étaient disposés à aider les petites entreprises, etc. Ils sont encore un peu en retard sur le plan de la rhétorique, mais en gros, ils comprennent que ne seront utiles que en allant vers ceux qui créent.
Ouais. Alors, il y a les politiques, mais il y a un autre pouvoir qui est énorme et qui n'est pas toujours facile de faire bouger. C'est pas aujourd'hui que je devrais le dire, mais on est une radio spécialisée sur les PME, donc on est là pour ça. C'est la presse. Est-ce que la presse comprend ces sujets? Est-ce que le sujet des petites et moyennes entreprises l'intéresse? On a la sensation que comme les politiques, puisqu'il y a une espèce d'homogénéité de tout le monde. Évidemment, on parle de ceux qu'on connaît, notamment des grands groupes, mais est-ce que la presse réagit bien à vos publications, à ce que vous lancez, aux idées? Est-ce que c'est facile de les mobiliser aujourd'hui?
Malheureusement, la presse française, elle est très portée sur l'anecdote, l'émotionnel, pas le dossier. On a même des surprises. Parfois, on se trouve en concurrence avec des journalistes qui... voudrait reprendre tout ce qu'on fait et sans nous citer.
Sans vous citer.
Ouais, c'est assez étonnant. Donc on compte pas trop. La presse, malheureusement, joue pas obligatoirement. Faut pas généraliser, mais disons, on peut pas trop compter sur eux, je trouve, parce que ils sont aussi, eux-mêmes sont très dispersés. Ils font dans l'émotionnel, dans le. Et puis, si quand même, ils mettent toujours en avant. Les gens des services, l'internet, le numérique, etc., le mec dans la presse, dans la publicité, tout ça, sans comprendre que s'il n'y a plus rien à vendre, s'il n'y a plus de, il y a plus de presse, il n'y a plus de publicité, il n'y a plus rien. Si on n'est pas créateur de biens et de services, ils ont qu'à aller voir en Afrique, comment ça se passe? Ils parlent de la queue du char en Afrique, il n'y a plus rien du tout. C'est un désert, il ne se passe rien. Il n'y a pas de biens créés, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de manufacture. Donc, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de communication. Voilà, et je crois que malheureusement, il faut reprendre l'éducation dans le sens instruction, c'est-à-dire pour faire comprendre aux journalistes que l'économie, c'est un train et il y a des secteurs d'activité qui entraînent les autres et qu'on n'est pas seul. Il y a des concurrents dans le monde entier et que donc il faut qu'on soit cohérent dans la démarche.
Ouais. Donc gros travail de pédagogie vis-à-vis de la presse, gros travail de pédagogie vis-à-vis politique. Du coup, ça nous refait une république des professeurs qui doivent éduquer nos politiques et notre presse. Mais donc vous dites, ils y viennent, ils écoutent, ça commence à bouger. Et votre vision sur ce que fait l'aile gauche de notre domaine politique français, on a l'impression que les PME, ça les intéresse pas. On le voit pas beaucoup dans leur programme qui est sorti il y a quelques temps. Bon, c'est une espèce de plateforme commune.
Ils sont toujours pas guéris d'une vision marxiste, c'est-à-dire qu'en fait, ils pensent toujours au partage, sans penser, disons, à la création de richesse. C'est frappant, je trouve.
Et même dans leur discours actuel, il n'y a pas de dissidents, il n'y a pas de gens qui essayent d'agiter un petit peu.
Leurs think tanks sont surtout présents sur la politique politicienne et pas tellement sur le. Ça les gêne d'aller parler des PME. Vous rendez compte, parler d'un individu qui crée de la richesse, qui crée des emplois et qui devient indispensable.
Ouais.
C'est quand même embêtant, quoi, pour un socialiste pur et dur qui pense que tout le monde doit être à sa place et.
Et quand Terra Nova dit finalement que l'électorat de la gauche a peut-être changé, que c'est plus l'ouvrier parce qu'il vote peut-être plutôt à l'extrême droite et qu'il faudrait peut-être aller chercher ailleurs, est-ce que c'est-à-dire que c'est un premier pas vers l'idée de dire, bah, puisque notre population a changé, on va peut-être changer nos thèmes aussi?
Ouais, je trouve que c'est désespérant de voir que les gens comme ça peuvent se déplacer pour aller chercher de l'électorat, quoi.
Ouais.
Ça n'a pas de sens. Là, ils se sont trompés, Terra Nova.
Alors, petite question amusante, on supprime l'ENA demain, on mettrait quoi à la place? Juste un recrutement ouvert à tout ce qui existe?
Oui, je pense que si vous voulez, on a des grandes écoles, on a des universités de qualité, il faut essayer de voir comment on peut... ce que je reproche à l'ENA, c'est que c'est vraiment trop concentré, quoi. C'est 100 mecs qui sont isolés pendant 10 ans pour... qui connaissent pas pour la plupart la société, qui marchent dans un système assez fermé. Non, on a besoin maintenant d'autre chose. On a besoin de gens qui passent d'un système à l'autre, qui comprennent les enjeux et qui sont pas sans arrêt dans la carrière et dans le pouvoir.
Ouais.
Et l'administration n'est pas dominante dans toute la mondialisation actuelle.
Ouais.
Donc, bon, voilà, moi j'aimerais bien avoir des énarques qui soient formés à Dauphine, qui soient des professeurs agrégés, qui sortent de normal bien sûr, mais qui soient 3 ans à Pékin, 2 ans à... et qui sachent parler à tout le monde, sans pour autant se croire. Et là, c'est là où les socialistes sont à côté de la plaque, c'est-à-dire ils permettent cette espèce de caste, ils la défendent.
Ouais.
Alors que c'est là où ils devraient dire non, ça doit être plus démocratique, le mérite, l'expérience, la générosité, et non pas le gars qui a passé des examens successifs.
Dernière petite question qui sera notre conclusion et notre fin. Nos auditeurs aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup maintenant, ils se disent tiens, Fondation Concorde, ça m'intéresse, ces valeurs m'intéressent, je veux travailler, je veux produire, je veux proposer des mesures, j'aimerais être écouté, ils peuvent venir vous rejoindre, c'est ouvert.
C'est ils appellent ou ils envoient un mail à info@fondationconcorde.com et on leur répondra.
Ils seront bienvenus alors. Très bien. Monsieur Rousseau, bonne journée.
C'est moi qui vous remercie.
Avec grand plaisir et à très vite sur une prochaine émission de Politique PME. Au revoir.